1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, voilà. Bonjour, bonjour, bonjour à tous ceux qui nous écoutent, mais j'ai un petit souci de micro, je ne sais pas ce qui se passe, voilà. Je mets un peu de playlist et on essaie de régler ça. Voilà. Bonjour à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Je pense que je suis à l'antenne. Tout va bien, j'espère. Voilà. Eh bien, bonjour à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Je le répète. Aujourd'hui, article 25, c'est du social. Bien, nous allons voir ce qu'il en a été de l'industrialisation donc en France. L'histoire de l'industrie, bien sûr. Mouvement social également et les lois dites liberticides qui affaiblissent donc les plus défavorisés. Voilà. Allez, histoire de l'industrie en France. L'histoire de l'industrie en France prend sa source donc d'une manière différente d'autres pays très industriels comme la Belgique ou le Royaume-Uni. Bon, il ne semble pas particulièrement lié à la Révolution. L'économie se développe certes, mais cette évolution est basée autour du secteur des services. La consommation de produits industriels a atteint son plus haut niveau. Sa société se construit autour des services en marchandises, cela se nomme l'économie résidentielle. Voilà. Bon, il suffirait de peu pour arriver à une économie de services dématérialisée, bien sûr, mais cela causerait une baisse considérable du taux d'emploi en France. Bon, de nos jours, bien sûr, les produits sont de plus en plus fabriqués, hein, et là, dans des pays où les salaires sont bas pour produire plus à un coût plus faible. Donc, en fait, c'est une histoire d'esclavage. Quoi. Voilà. Bah, définition de l'industrie, bien sûr, l'intérêt de s'appliquer à la fois au secteur historique, traditionnel et aux nouvelles activités donc, de l'information. C'est par conséquent grâce aux critères opérationnels qu'il est possible de réduire ce qui dépend d'une logique industrielle et ce qui n'en fait pas partie. L'industrialisation donc a permis la croissance de l'offre avec la standardisation de la production, exemple avec l'automobile. L'automobile a été un plein essor donc, à cette époque-là. Bon, le contexte il est simple. Au tout début donc, de la révolution dite industrielle, où cela a malheureusement apporté pas mal de maux, notamment pas mal de maladies, hein, je reviendrai dessus, lorsque le Royaume-Uni voilà, commence donc à se moderniser, la France suit, mais s'oppose à plusieurs freins au progrès. Bah, les gisements de charbon et de minerais sont beaucoup plus rares, hein, ou plus difficilement accessibles que dans d'autres pays comme la Belgique et plus contrairement à la Grande-Bretagne. La France ne souffrait pas d'excédent de main-d'œuvre et l'agriculture était encore un secteur très prospérant, plus comme maintenant malheureusement. Bien sûr, il y a eu l'ère proto-industrielle, voilà. Fin 15e siècle, fin 18e siècle, les grandes découvertes marquent le début des temps modernes. De nouveaux marchés, de nouveaux besoins, de nouveaux produits apparaissent. Voilà. Et là, on remonte dans l'histoire. En 1453, la guerre est terminée. La population française a fortement baissé à cause de cette dernière d'une pandémie de peste. Les travaux des champs et l'activité fabricante ont été touchés. Bon, c'est dans les années 1460 que la population recommence à augmenter. 17 millions environ, donc dans les années 1460. Bah, il y a eu aussi la France de l'Ancien Régime, est une nation paysanne. Pourtant, la vie est un moteur de l'industrie. En effet, l'augmentation de la population entraîne la construction de nouveaux logements, nécessitant briques, bois, terre, métal, etc. etc. Bah, un nouveau matériau est apparu à la Renaissance dans les constructions civiles. Bah, le verre également, hein, des techniques sont utilisées, une qui rend le verre presque incolore et transparent, et celle qui permet de produire un verre plat de grande taille. Bon, industrie et l'État, oui, bien sûr, l'urbanisme royal pour beaucoup à la transformation du paysage urbain, surtout au XVIIIe siècle. Ainsi, des alliés, des quais, des bâtiments publics, théâtres, bourses sont construits. Et à cette époque, les besoins d'équipement augmentent, les besoins d'équipement militaire augmentent. Et l'État a besoin d'habillement pour les troupes, mais aussi des armes et des munitions. Au XVIIe siècle, le fusil se généralise et sa fabrication s'intègre dans une production de masse. À la même époque, l'artillerie de bronze, se développe tout en restant fragile. Bon, voilà. Bien sûr, il y a eu le côté de la marine. Sous le ministère de Richelieu, des vaisseaux portant bon nombre de canons sont construits. La construction navale consomme surtout du bois, mais également du fer. Ce marché volumineux s'organise à compter des 20 dernières années du XVIIe siècle. Et autour de quelques manufactures royales au profit de quelques pôles sidérurgiques. Mais voilà, en temps de paix, l'État ne demande presque rien. Les ouvriers français sont obligés de travailler à l'étranger, donc s'expatrier. Quoi. Alors, il y a eu ce qu'on appelle l'industrie textile, qui a été florissante. Alors, le textile domine donc l'activité industrielle de l'Ancien Régime. En effet, on peut estimer qu'au XVIIe siècle, il représente la moitié de la production industrielle nationale et occupe l'essentiel de la main-d'œuvre non agricole. Bon, ces industries sont concentrées dans les villes à la campagne. La fabrication est plutôt discrète, bien sûr, et immergée dans l'économie donc familiale. De plus, le coût de l'outillage qui est très cher et le savoir-faire qui se transmet en milieu citadin renforcent cette ségrégation. Bon, le vêtement est un autre besoin que l'industrie permet de remplir au XVIe siècle. Un changement de comportement vestimentaire s'opère dans les villes. Les élites urbaines sont séduites par de nouveaux tissus, de nouvelles couches et de nouvelles formes. Jusqu'à la fin du XVIIe siècle, à Paris, on peut observer l'essor du sous-vêtement et des textiles d'intérieur. Linge de table, tissus d'ameublement, il y a toute une liste. Les matériaux aussi ont eu leur part. Hein. Les matériaux et objets du quotidien changent entre le XVIe et le XVIIIe siècle d'une façon plus prononcée qu'auparavant. Par exemple, dès le XVIe siècle, les bouteilles de verre tendent à remplacer bien sûr les pots de gris. Voilà. Au XVIIIe siècle, en ville, la vaisselle de faïence l'emporte sur celle d'étain. Voilà. Bon, entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, il y a une forte augmentation des objets métalliques avec une percée du fer blanc. C'est avec ça qu'on faisait des armures, je crois. Bon, les régions d'agriculture commerciale sont les plus ouvertes à ces produits car proches des villes ou en relation avec elles. Bon, ces zones sont dans une division de travail qui donne aux producteurs, vendeurs les moyens et le goût d'imiter le mode de consommation urbain, bien sûr. Les produits industriels ne sont qu'un élément modeste en poids comme en valeur. L'ensemble des marchandises transportées en France ou exportées à l'étranger, les graines, le vin et le bois comptent beaucoup plus. Donc, il y a aussi le colbertisme. L'activité industrielle est fortement consommatrice de capital. Les grands marchands du XVIe siècle lui ont permis de faire face à ses besoins de fonds. Cependant, les maisons françaises ont du mal à émerger, bien sûr, face à la concurrence des familles donc étrangères. Bon, il y a eu un nommé Jean-Baptiste Cauvert. Ce dernier mena donc une action de grande envergure en faveur de l'industrie nationale. Ce mouvement sera nommé le colbertisme. Au milieu du XVIIe siècle, l'économie française est en récession et des marchés ont été perdus, comme le Levant. La principale faiblesse de l'industrie française tient à la mauvaise qualité de ses produits. Pour y remédier, Colbert instaure une moralité du travail et une logique de la dépense pour donner une nouvelle vitalité à l'industrie nationale et enrayer son déclin. Bon, il améliore également le travail dans les manufactures en embauchant des ouvriers beaucoup plus qualifiés. Mais voilà, dans les 30 dernières années de l'Ancien Régime, le système colbertiste est remis en cause, au nom du libéralisme. Industrie, énergie, l'industrie est consommatrice d'énergie, ça on le sait. L'homme et l'animal sont des moteurs traditionnels de travail, mais il faut également souligner l'énergie hydraulique qui émerge, qui permet de mouvoir certains outillages comme les marteaux, les pilons, les soufflets et tout ce qui s'ensuit par derrière. Par exemple, en 1698, en France, on comptait 1000 moulins à vent, à eau, pour le secteur de la métallurgie. Bon. Quant à la sidérurgie, la ferrerie, ce secteur-là était en plein essor également. Voilà. Bon, le bois, sous toutes ses formes, a été au moins jusqu'au premier tiers du 19e siècle le combustible de tous les foyers de l'industrie. La sidérurgie est loin, la principale consommatrice. En 1775, environ 1,5 million d'hectares de forêt sur un total compris entre 8 et 10 millions à la fin du XVIIIe siècle. La hausse du prix du bois entraîne dans la démocratisation donc de la houille, charbon de terre par certaines activités, généralement en aval des manufactures. Un développement sans révolution, oui, bien sûr. Vers 1780, vers 1880, les caractères originaux de l'industrialisation. L'industrialisation débute après les 30 ans de malheur sanctionnés par le grand déclassement. la chute de la protection pendant, de la production pardon, à la Révolution de l'ordre de 5 dixièmes. Le recul des fabrications à l'échelle nationale est de 51% entre 1790 et l'an 3. La connaissance concrète et détaillée des nouveaux procédés voyant à manquer, ainsi que la main-d'œuvre étrangère pour les transférer sur le continent. Bon, la révolution commençante fournit un cadre neuf aux activités industrielles avec une réglementation du travail urbain, des associations professionnelles ou du droit d'exploiter les mines ou de la police des eaux. Développement de normes et de lois pour encadrer l'évolution et pour réduire la débauche des ouvriers qui deviennent très mobiles. Une large base de recrutement aux industries puisque même les paysans avaient besoin de revenus complémentaires pour vivre de plus. Expansion des machines à vapeur et utilisation du rail pour les transports souterrains arrive dans les années 1830. Lors de ce développement, le pays a du mal à passer, à passer des moteurs hydrauliques aux moteurs à vapeur. À cause du prix et de la dépendance à l'extérieur qui rend les entreprises vulnérables, c'est en 1837 que la production de fer à la houille l'emporte sur le fer. Au bois, la révolution des transports, chemin de fer et canaux, casser les prix et créer de nouvelles solidarités. Voilà, et j'en resterai là pour ces explications. Voilà, je vais mettre un peu de musique et je reprends l'émission. Voilà. Il est 2h moins 5 passé. Encore une petite demi-heure d'antenne. J'ai à côté de moi Michel Guérin. Michel Guérin, merci d'être venu. Voilà. De la Libre Pensée qui nous vient nous. Qui, la Libre Pensée qui a tous les premiers mercredis du mois. Voilà. Il est à côté de moi, il écoute. Bien. Les principaux mouvements de grève après les grandes grèves donc de 36, donc de voilà de 36 et du Front dit populaire, le plus grand mouvement est celui de mai-juin 68. Évidemment, bon, ces tableaux ne prennent pas en compte les étudiants et après le 15 mai 68, d'abord mouvement social des travailleurs. Après les étudiants qui s'appellent se sont mis également se sont associés donc à ça. À le mouvement de fin 1886 contre le plan de Vaquer est resté un conflit de monde étudiant, d'où des statistiques de jours de grève étalées. D'autres dates moins restées dans les mémoires réapparaissent. 1944, la contribution de la grève dans le mouvement de libération, bien sûr, notamment à Paris, est importante. 1947, de nombreuses grèves, notamment chez Renault, conduisent à la sortie des ministres. Allez, hop, dégagé. Ministre communiste en plus. Hein. Ça n'a pas été bien de leur part de virer donc des militants comme ça, du gouvernement. Les mouvements reconduits par la CGT se multiplient après mai chez Citroën, à la SNCF, dans les banques, dans les grands magasins. EDF, bien sûr, EDF qui n'est plus un service public depuis de belles lurettes. Et puis chez Peugeot, Berlier, Michelin, et le principal motif des grèves est la revendication de hausse des salaires. Voilà. En gros, c'est ça. Pas en gros, c'est ça. Bon, 1953, là, voilà. Grande grève dans la fonction publique, perceptible aussi dans le privé, contre le projet du gouvernement de retarder l'âge de la retraite, de 65 à 67 ans. Déjà, ils y pensaient, voyez-vous. Pendant l'été, environ 4 millions de grévistes ont montré leur mécontentement. Touchons pas à nos retraites, le projet d'abandonner. Voilà. 1963, voilà. Les grandes grèves dans le secteur minier, la mine. Plus près de chez nous, on peut observer un pic de grève dans le secteur public en 2003 pour protester contre le projet Fillon visant à retarder les départs à la retraite de tous les salariés. C'est-à-dire qu'on veut nous faire travailler jusqu'à notre mort, quoi. Vers les 42 ans et plus d'années de cotisation. L'année 2000, quelle belle chose, quelle belle année. Alors l'année 2000 est également riche en conflits, bien sûr, dans le secteur public. Il s'agit notamment de grèves au ministère des Finances. Même eux, ils étaient en grève, vous vous rendez compte un peu. Il faut le faire, hein. Ils conduisent à la démission du ministre socialiste, Christian Sauter. Il a sauté, je ne sais pas. Enfin bref. Et dans l'évacuation nationale contre la politique de Claude Allègre. Ah, monsieur Claude Allègre, quel homme, hein. Bon, allez, passons. Bon, dans le secteur privé, les revendications concernant l'application des 35 heures, là, c'était gagné. Mais surtout, à l'occasion de la baisse du chômage. Les salaires deviennent le principal motif de grève. Le même phénomène s'est produit à un degré moindre lors de la brève reprise économique de 1989. Par exemple, avec les grèves de Peugeot, Sochaux et Saucem. Voilà. Donc, c'est complet, voyez-vous. Alors les mouvements, il y a eu beaucoup de mouvements, hein. Il y a eu les mouvements de 1910, 1920, 44, 47, 53, 68, 86 obtiennent la satisfaction des revendications. Ceux de 1938 et 1948 et 1971 échouent. Les mineurs ont été une profession très combative, les gouvernements sont également attentifs au mouvement des enseignants, des étudiants. Les grèves de 2010 contre la réforme des retraites ont accueilli leur soutien populaire. Et avec tout ça, un 49-3 au milieu. Bon, voilà, un peu de chronologie détaillée, hein, époque médiévale. Bon, 1229 à l'Université de Paris. 1392, révolte des maillotins à Paris, bien sûr. 1358, grande jacquerie dans les campagnes d'Île-de-France, Picardie, de Champagne, d'Artois et de Normandie, bien sûr. Bon, il y a eu aussi l'époque moderne, hein, qu'on appelait ça. Hein. Bon, 1539, le grand truc des imprimeurs, Lyonnais. 1662, révolte des Lustres crus dans le Boulonnais, voilà, les pâtes. 1715, insurrection des Camisards dans les Cévennes contre les persécutions qui ont subi la révocation de l'édit de Nantes en 1685. L'édit de Nantes. Bah, bien sûr, il y a eu ce qu'on appelle l'époque temporelle. Alors là, il y a toute une pléiade donc de dates. Bon, je veux quelques-unes quand même. Hein. 1789, Révolution française, hein. C'est là où on a raccourci les gens. Ensuite, 1829, guerre des demoiselles contre le nouveau corps de forestiers. Voilà. 1830, trois glorieuses. 31, révolte des canuts à Lyon. 33, émeute des quatre sous à la compagnie des mines d'Azin. Bon, etc. Voilà. Toute une pléiade de dates. Alors, les années 1900-1930, voilà. À 1905, grève des sardinières. Même les sardinières étaient en grève. Série de grèves qui reprend en 1924. Les poissons étaient tranquilles. Les ouvriers des sardineries de Noirmoutier et Concarneau protestent contre la pénibilité de leur tâche, je les comprends. Et les bas salaires. Ils obtiennent gain de cause lors de ces deux mouvements. 1906, grève à la suite de la catastrophe de Courrières sous le gouvernement de Clémenceau. Bon, Clémenceau, c'est Clémenceau. La France connaît un pic de grève également. 1907, révolte des vignerons, même le vin, voyez-vous, c'est complet, hein, état quasi insurrectionnel dans le sud de la France. 1908, grève de travail à Villeneuve-Saint-Georges, département de Seine-et-Oise, bien sûr, plusieurs morts, des arrestations massives. Et par ici la sortie. 1909, grève au PTT, première grève de fonctionnaires d'État. Ils n'étaient pas contents, hein. 1910, grève générale dans les chemins de fer, eux aussi n'étaient pas contents de leur situation. Grève de juin dans la métallurgie parisienne le 1919, avec de forts accents révolutionnaires. 1920, grève générale des cheminots des mines du Nord et d'autres corps de métier, tel l'habillement. Voilà. Bon, après, bien sûr, il y a eu... en 1936, grève générale spontanée à la suite de la victoire électorale du Front populaire. Voilà, occupation des messes, instauration des congés payés, hausse de salaire de 20% en moyenne, plus tard compensée par la hausse des prix. Voilà. Bon, 1938, grève du 30 novembre 1938 à l'instigation de la CGT, donc syndicat des travailleurs. Années 40-50, voilà, 41, grève des mineurs du Pas de Calais contre l'occupation nazie. Là ça a été quelque chose, croyez-moi. Les Allemands ne faisaient pas de cadeaux, là. En 44, les travailleurs sénégalais réclament les paiements relatifs à la démobilisation, blanchiment des coupes coloniales, même les troupes coloniales, voyez-vous. Là, on s'éloigne un peu, là. Qui débouche sur le massacre de Tia Roy. 1945-48, grève générale sénégalaise, voilà, etc., qui était alors colonie française. Hein. Maintenant là-bas, il n'y a plus de colonie, il n'y a plus rien. Hein. Bon, 46, la constitution de la 4e République, là nous sommes en 5e, peut-être il y aura peut-être la 6e, après, on ne sait pas, consacre le droit de grève. Dans son préambule, ce préambule a toujours valeur constitutionnelle. Par décision du Conseil constitutionnel. Conseil constitutionnel. Bon, grève générale de l'automne de 1947 dans de nombreux secteurs industriels. 48, grève des mineurs de 1948, etc. Voilà. Bon, voilà. Bon, allez, on se rapproche un peu, puis après, on fera un peu de musique. Alors, années 70. 1963, grève générale des mineurs de tous les bassins houillés de première grande grève depuis le retour au pouvoir du général de Gaulle. Bon. Mai 68, grève générale sauvage, manifestations étudiantes, sont suivies d'occupation de locaux universitaires, puis de nombreux salariés de différents secteurs économiques se mettent en grève. Donc ça a commencé par les étudiants et après les salariés les ont suivi. Quoi. Bon, le pays est paralysé par l'arrêt de la distribution des carburants, tout le monde à vélo. Le 13 mai 68, des défilés rassemblent 200 000 à 1 million de personnes à Paris, selon les différentes sources. et 1 000 000 dans une trentaine d'autres villes du pays, entraînant le lendemain des débrayages dans les usines. Le 22 mai 1968, la France compte 8 millions de grévistes et le 25 mai, au lendemain de l'ascension, on fronde les 9 millions de grévistes. Le record de la précédente grève de 1936, 6 millions étaient battus. Les accords de Grenelle signés à 7 heures du matin, ils n'ont pas dû dormir beaucoup, hein, sont rejetés par les assemblées générales. Le 30 mai, une manifestation en soutien au président de la République qui vient de dissoudre l'Assemblée rassemble 800 000 personnes. Bon, bien sûr, il y a eu les accords de Grenelle qui conduisent entre autres à une hausse de 35% du SMIG, salaire minimum interprofessionnel. Bon, le printemps de 73, grève d'autogestionnaires à l'usine de Montre, Lippe de Besançon, qui malheureusement a tiré rideau. Voilà, et j'en resterai là parce que sinon la liste serait beaucoup trop exhaustive s'il fallait parler de tout ça. Il est 13h07, un peu de musique et je reprends l'émission. We'll be right back. Voilà, voilà. Alors, j'ai commis une petite erreur tout à l'heure. J'ai dit qu'il était 2h et quelque chose, en fait, et non, c'est pas ça. Je me suis trompé d'une heure, je m'en excuse. Voilà. Bon, les lois dites liberticides et militarisation offensive. Ça, c'est intéressant. Bon, alors, voyons un peu ce que ça donne. Il s'agit de M. Emmanuel Macron, hein, ne trompons pas, hein, voilà. Le premier mandat donc, d'Emmanuel Macron a été le point de bascule d'une plongée française dans une succession de lois liberticides et une doctrine policière offensive unique en Europe. Malgré les critiques de nombreuses instances de défense des droits humains, le gouvernement a militarisé la police, justifiant ses violences par le droit, en tentant de nous faire confondre impunité, légalité et légitimité. Depuis une dizaine d'années, sous l'égide de gouvernements assumant donc de plus en plus une doctrine répressive, et à l'inverse de nombreux autres pays européens, la police française a privilégié l'affrontement à la désescalade et la réponse policière à la réponse politique. Analyser un certain Jean-Louis Siroux, qui était, je crois, sociologue. Voilà. En 2020, Alexandre Langlois, ancien secrétaire du syndicat Vigipolis, ancien policier, constate les échecs de cette institution. Alors là, c'est lui qui parle. J'avais dit, je précise, hein, c'est lui qui parle, puisque c'est un texte que j'ai devant moi. J'avais dit, le jour où il n'y a plus d'espoir de réforme de l'intérieur de la police, je partirai. On est arrivé à ce point de non-retour. Avant, nous étions défenseurs des libertés individuelles. Dès l'institution de la République, en 2014, nous sommes passés défenseurs des lois. Et le mot République a été supprimé, remplacé par des intérêts. Et qui les définit ? Le gouvernement, mais si ces intérêts sont contraires à l'intérêt général, que se passe-t-il? On réprime d'ailleurs ce glissement sémantique, mais très factuel, bien sûr. La police n'est plus utilisée pour protéger le débat public, mais pour imposer la volonté du gouvernement en 2020. Bon, bien sûr, il y a eu ce point de non-retour dont parle l'ancien policier, qui a trouvé son parcours aussi lors du mouvement des Gilets jaunes, débuté le 17 novembre 2018, qui enregistre le pire nombre de morts et de blessés lors d'opérations de maintien de l'ordre. Depuis 1968, en encourageant la répression brutale des mouvements sociaux, en faisant usage de la force, bon, sans modération parce que généralement ils y vont fort, aucun délire. Définir la violence policière, bien sûr, la légitimité de l'État suppose que celle de ces institutions et en premier lieu de l'institution policière qui fonde la légitimité légale et rationnelle de la violence de l'État. Alors, il est impossible d'utiliser le terme violence policière sans référer en amont au droit, et notamment au droit concernant l'usage de la force par les policiers. Si le droit consacre effectivement l'usage de la force par la police, Othman Farahi, chercheur sur les Gilets jaunes, rappelle dans le numéro de Gréza Echo de mars 2022 intitulé Gilets jaunes et violence de classe. Qui est censé de saisir pleinement. La frontière sépare le maintien de l'ordre tel qu'il est dicté par le droit et la loi dans un État démocratique et l'usage excessif et disproportionné de la force qui lui relève de la répression. Jusqu'en 2017, le régime d'usage de l'arme pour les policiers n'était régi par aucun texte particulier. Il relevait uniquement du droit commun. En cas d'usage de son arme, l'agent de police devait démontrer la légitimité de la défense. Ce qui est passé maintenant à l'AST. explique un certain Méril Recoutillier, juriste spécialiste en droit pénal, etc., 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 le 11 juin 2022. Bon, en France, la légitime défense est une cause d'irresponsabilité pénale qui établit sur ces conditions l'attaque doit être justifiée, voilà, injustifiée, pardon, et la réponse doit être immédiate, nécessaire, proportionnée. Bon, il y a un article, je pense, hein, bon, du code pénal. Une exception de taille avait été faite en 2012 et en permettant aux forces de l'ordre de faire directement usage de la force si des violences ou de voies de fait sont exercées contre eux ou s'ils peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent. Bah, encore un article, donc on passe. C'est un article du code de la sécurité intérieure également. Voilà. Bon, il y a eu Pascal, nommé Pascal Pariello, qui est journaliste, pour Mediapart, ajoute que nulle précision n'est apportée sur ces situations exceptionnelles qui sont brandies de plus en plus systématiquement. Lorsque des violences policières sont commises, janvier 2020, 5 ans plus tard, le code de la sécurité intérieure autorise les policiers à faire usage de leurs armes. Dans 5 cas, en substance, il s'agit d'empêcher quelqu'un de commettre ou de réitérer un meurtre qui vient d'être commis. Lorsque l'agent a des raisons réelles objectives d'estimer que cette réitération est probable, voilà, dans tous ces cas, l'article déclare en préambule que l'usage des armes doit subvenir en cas d'absolue nécessité de manière strictement proportionnée. Bon, depuis 2017, l'usage de l'arme n'est donc plus interdit, sauf exception et autorisé. Sauf exception. Il est plus facile de légaliser que de légitimiser, déclaré le moraliste donc Nicolas de Chambord en 1923. Bon, un siècle plus tard, par l'avocat Henri Leclerc, spécialiste des droits de l'homme, force est de constater que la loi de 2017 a marqué un tournant d'après le recensement des médias indépendants. L'unique base de données française sur les violences policières létales, depuis 2017, la police a tué 4 fois plus de personnes suite à un refus d'obtempérer que sur les 15 dernières années. Précédente, je précise. Bon, ça me parle de violence policière, c'est donc désigné l'usage d'armes, de la force physique ou de la menace quand les principes de légitimité, de dénicité, de proportionnalité et d'avertissement ne sont pas scrupuleusement respectés. Voilà, j'en reste là. Bon, en définitive, il faut être clair là-dessus. Un fonctionnaire, il a une arme de police. Il sort son arme. Il tire, c'est sous sa responsabilité. Je n'en dirai pas plus là-dessus. Allez, un peu de musique et je reviendrai pour vous, pour la fin de l'émission. Allez, un peu de musique. Voilà. Eh bien, bon après-midi à toutes et à tous, et nous vous disons à très bientôt sur Radio Galère 88.4 en FM.